session de théologie La Parole de Dieu par le Père Philippe à Rimont, le 1er novembre 1992, deuxième cours.
Je fais l'analogie entre la parole divine et le mystère du Christ. Comprenez bien que la nature humaine du Christ est née sous l'action de l'Esprit Saint en Marie, dans une pureté parfaite. Tandis que l'Esprit Saint se sert de la parole humaine qui est toujours pleine de bavure. Ce qui fait comprendre, et c'est très intéressant de voir ça, de pousser ça jusqu'au bout, ce qui fait comprendre le rôle propre de la théologie, c'est d'essayer de saisir à travers la parole divine la signification analogique propre qui peut nous ouvrir au mystère et permettre l'adhésion au mystère. Développer tout le point de vue de l'aspect de la complexité du langage humain en raison du milieu, en raison de la langue, c'est accidentel. Vous voyez la différence entre l'exégèse et la théologie scientifique. L'exégèse développe le conditionnement dans lequel telle révélation s'est faite. Donc la parole humaine dans son contexte. C'est ça qu'on développe. Et cela n'est pas analogique. Cela ne peut pas être saisi et pris par la lumière divine. Tandis qu'au contraire, si je saisis la raison analogique, cela peut être assumé par la lumière divine. Oui, c'est là la très grosse différence. Ce qui montre bien que l'exégèse ne nous fait pas entrer dans le mystère. Et quand l'exégèse devient trop lourde, elle devient même un obstacle. Et ça, c'est très important. C'est capital. Essayez de bien saisir que le propre d'une théologie scientifique comme celle de Saint Thomas, c'est d'essayer de saisir les raisons analogiques et de les mettre en pleine lumière pour que la parole de Dieu me permette de contempler le mystère. Autrement, je resterai alourdi par tout le conditionnement de la parole humaine. Et c'est là la très grande. C'est pour ça que je dis que c'est une analogie entre le mystère de l'incarnation et le mystère de la parole divine. Le mystère de la parole divine reste toujours vers le point de vue de la vision béatifique. Et dans la vision béatifique, la parole de Dieu restera, c'est sûr, mais elle est complètement dépassée. Tandis que l'incarnation n'est pas dépassée. Alors, petite question. Puis-je faire une analogie entre l'idéal de l'artiste et l'intention de Dieu qui me donne sa parole? Je ferai surtout l'analogie avec la parole créatrice de Dieu, plus qu'avec la parole qui me conduit à la vision béatifique. Mais je peux faire une analogie avec l'intention. C'est sûr. Il y a une intention de communiquer. L'artiste veut communiquer quelque chose. Par son œuvre, il communique ce qu'il porte en lui. Dieu veut communiquer ce qu'il porte en lui éternellement. Il veut nous le communiquer en se servant de la parole humaine, qui est en quelque sorte la matière qu'il va transformer par son inspiration. En théologie, quand j'oppose deux tentes, c'est un raisonnement. Quand j'oppose deux textes, je croyais que c'était la tente de Dieu et la tente de l'homme, parce que je peux faire l'analogie, hein. Il y a la tente de l'Alliance. bonne au point de départ pour montrer les oppositions. Mais la dialectique n'est pas ce qui conduit, ce qui est le terme. Quand la dialectique est le terme, elle supprime la contemplation. Quand la dialectique est le point de départ pour éveiller, elle est bonne. Quand les... Vous voyez, cette parole qui est la parole des pères de l'Église. Les pères de l'Église disent la théologie a commencé en opposant deux textes de l'Écriture. Je prends l'exemple. Jésus dit, quand on vous frappe sur la joue, offrez l'autre joue. Quand Jésus est en face des grands prêtres et qu'un serviteur lui donne une gifle, pourquoi m'as-tu fait ça? Il n'a pas offert l'autre joue. Pourquoi? Il y a une contradiction. Jésus ne vit pas ce qu'il a dit. Alors là, le théologien doit réfléchir pourquoi Jésus dit ça et pourquoi en face des grands prêtres, il n'applique pas ce qu'il a dit. C'est le propre du théologien, ça. De réfléchir sur la signification profonde de ce que Jésus dit, pour voir qu'il n'y a pas de contradiction. Tandis que s'il n'y a plus de théologie, alors j'ai une pensée dialectique qui met toute l'écriture relative. Alors, je vous donne un exemple. À propos du fondement de l'autorité, c'est un exemple vécu. J'ai entendu cela. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le passage de Jésus face à Pilate. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cette autorité ne t'était donnée d'en haut. Cette parole a été citée par quelqu'un qui venait d'entendre une conférence qui disait que on ne peut rien comprendre à la parole de Dieu si on ne connaît pas tout le contexte historique. Et qui disait, dans le contexte d'aujourd'hui, l'autorité vient du peuple et non pas d'en haut. Alors, devant cette objection, le théologien en question a dit, si Jésus avait dit ça dans le contexte d'aujourd'hui, il aurait dit à Pilate, tu n'aurais aucune autorité s'il n'avait pas été donné par le peuple. Mais c'est un exemple très très net, hein. Et puis c'est vécu, alors c'est ça, ce qui est intéressant, c'est pas imaginatif. Vous voyez là, procédé dialectique, procédé analogique. Réfléchissez là-dessus. Vous comprenez très bien, transformer la parole de Dieu de cette manière-là, comme si Jésus, aujourd'hui, aurait dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il avait été donné par le peuple. Alors, à ce moment-là, Jésus ne dit pas quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est que toute autorité vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Pourquoi? L'autorité repose sur l'esprit. L'esprit vient de Dieu. Dieu a créé notre âme. Et notre âme est capable d'autorité parce qu'elle a la prudence. Et la prudence, c'est l'esprit pratique et le sens de la finalité. Celui qui n'a pas le sens de la finalité ne peut pas exercer l'autorité. Alors voyez, autre chose est la raison d'autorité. Autre chose est l'application et l'exercice dans telle ou telle circonstance. Il faut faire la distinction entre la raison et le mode. Et ça, toute la théologie scientifique est faite pour ça. Tandis que si je prends uniquement une méthode dialectique, j'oppose en fonction des circonstances, de temps et de lieu. ce pourquoi la théologie scientifique de saint Thomas existe. Et le rôle très différent de l'exégèse moderne. Alors, je continue, si vous voulez bien, à répondre aux diverses questions. Il en a touché quelque chose d'extrêmement important, et c'est pour ça que je suis revenu là-dessus, pour que vous saisissiez bien, et que je vous demande s'il y a des questions, c'est très bien de les poser. Il faut toujours écrire ses objections. C'est la seule manière d'avancer. Si on ne les écrit pas, on les retourne sur nous-mêmes et ça revient au mauvais moment. Et on ne s'éclaire pas. Et tout enseignement implique un dialogue. Puisque c'est un bien commun que nous recherchons ensemble, la vérité. Alors je vous dis ce qui me semble être la vérité. La voie par laquelle on peut l'atteindre. Mais je peux tomber complètement à côté de votre conduite. Quand j'ai des étudiants que je connais, petit à petit, on se connaît. Quand des étudiants de passage, on ne peut pas savoir exactement où ils en sont. Alors, et voyez, Jésus dit, je suis la voie. La vérité et la vie. La voix, c'est la parole. La vérité, c'est l'adhésion au mystère. Et la vie, c'est le mystère de l'amour. Lumière, amour. Toute parole divine conduit à la vérité, qui est le mystère. Toute parole divine spire l'amour, c'est la vie. Et toute parole divine est une voix. La voix, la vérité et la vie. Ça exprime parfaitement le parallélisme qu'on peut établir entre le mystère de Jésus et le mystère de la parole de Dieu. Alors, la raison de la parole implique-t-elle nécessairement un auditeur qui écoute ? Oui, puisque la parole est une relation, une communication. On communique un mystère à quelqu'un qui le reçoit. S'il n'y a personne qui reçoit, on parle plus. Vous savez, c'est l'expérience qu'on a tous quand on enseigne. Si personne n'écoute, on se tait. La fameuse chose de Sartre, vous savez, là encore, c'est une histoire réelle, c'est pas un mythe. Sartre faisant une conférence à la fin de sa vie. Quand il voyait presque plus clair. À la fin de sa vie, il fait une conférence. Au début de la conférence, il y a 200 personnes. Puis la conférence dure plus qu'une heure, ça continue. Alors les gens, il y a l'heure, surtout à Paris. Ils s'en vont. Il reste une seule personne. Cette unique personne se pose le problème. Dois-je avertir Sartre ? Que je m'en vais et qu'il n'y a plus personne. Ou dois-je partir sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, et le laisser parler tout seul. Mais c'est un problème. C'est vraiment un problème cornélien, tu vois. Où est la charité exacte ? Est-elle d'avertir ? Ça peut arriver. C'est arrivé. Alors, il la résout en disant « Je dois avertir. » C'est plus charitable. C'est la réponse à cette question. La raison de parole implique-t-elle nécessairement un auditeur qui écoute ? Si vous partez sur la pointe des pieds et que vous ne laissez plus personne, vous faites que sa parole est vaine. Elle n'a plus de finalité. Vain. Vanum, c'est celui qui n'a pas de finalité. Or, la parole est faite pour qu'on l'écoute. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est admirable. Puisqu'il n'y a personne qui écoute, il n'y a plus que la voix. Il ne dit pas « Je suis la parole de celui qui parle dans le désert ». Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quand personne n'écoute, vous n'êtes plus qu'une voix. La voix de celui qui crie dans le désert. Oui, il y a une précision dans l'évangile de Jean qui est très étonnante. Il y a la voix, la parole et le verbe. Crier, c'est la voix. Quand vous n'avez plus de voix, vous ne pouvez plus crier. C'est très gênant quand on se met en colère. Parce qu'on n'a plus de voix. Et quand on se met en colère, vous avez tous remarqué ça, n'est-ce pas ? Quand on se met en colère, la voix prédomine la signification de ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit des choses complètement absurdes quand on est en colère. Et quand on est charitable, on ne tient pas compte de la signification de ce que les gens disent quand ils sont en colère. On tient compte de l'intonation de la voix. Et alors on mesure l'intonation de la voix au baromètre. On dit quand ça dépasse un certain niveau. Ça prend n'importe quoi. Sérum de vérité. On dit des choses qui sont latentes et qui sont en nous. Des choses qu'on a réfrénées. C'est notre surmoi qui dépasse à ce moment-là. C'est pour ça que c'est très intéressant d'écouter quelqu'un qui est en colère. C'est la purge radicale pour arrêter la colère. C'est la chose qu'on doit faire. Quelqu'un en auto et en colère, l'autre jour c'est arrivé comme ça, quelqu'un est en colère, alors je prends un papier qui vient pour faire rouler, je prends un papier au stylo, tiens, quel numéro ? Et il file à toute vitesse. La colère est arrêtée. La touche froide. Si vous m'invitez à lui répondre, donc la parole est en raison de quelqu'un qui écoute. La parole est-elle le moyen de communication le plus personnel ? Oui. Alors, il y a la parole et le geste. Toujours. Et dans l'écriture, il y a la parole et le geste. Les gestes de Dieu. Les grands gestes de Dieu. La parole est un signe spéculatif en vue de la vérité. Le geste est un signe pratique en vue de l'action. En vue de l'amour, quand il s'agit du geste divin. C'est très intéressant ceci, et nous le reverrons ce soir. La différence entre la parole et l'Eucharistie, entre la parole et les sacrements. Les sacrements sont les gestes de Dieu, et il y a la parole. Or, c'est sûr que la théologie s'est développée surtout par rapport à la parole, mais la théologie mystique doit réassumer tous les gestes. S'est développé surtout au point de vue philosophique par le point de vue de la parole. Mais aujourd'hui, de nouveau, on retrouve une philosophie des gestes et du corps. Le Saint-Père avait dit, il faut une philosophie du corps. Il faut une philosophie des gestes. Communique avec quelqu'un par la parole et par le geste. Et quand la parole faiblit, le geste vient pour aider. Ça, c'est sûr. Quand vous avez une parole très très forte, vous n'avez plus besoin du geste. Il n'y a qu'à regarder les orateurs. Il y a des orateurs qui ne bougent pas. Ils restent silencieux. Ils ont une foi admirable. conversation se fait avec le théâtre, avec le vivant, avec l'art. Alors vous avez l'art de la parole, vous avez l'art du geste. Et Dieu se sert du geste. Toute la révélation s'est terminée par un geste. Parce que la révélation est la communication de la lumière et de l'amour. Il faut bien nous faire comprendre que la révélation est une communication plus de l'amour que du geste. Toute la révélation se termine par le coup de lance, par le cœur blessé. Donc, quand on dit la parole est-elle le moyen de communication le plus personnel avec le geste, je dirais, l'un du côté de l'intelligence, l'autre du côté de l'amour. Alors, autre question. Les différents sens de l'expression parole de Dieu à partir de l'écriture. Ce soir, vous savez que traditionnellement, on a dit que la parole de Dieu avait des sens divers. Et saint Thomas, dans un article fameux du début de la Somme, parlant de la théologie, saint Thomas résume tout ce que les pères de l'Église ont dit. En disant que la parole de Dieu avait des sens divers. Alors, je vous ferai le petit tableau ce soir. C'est intéressant d'avoir ça. Parce que ça fait quand même partie d'un patrimoine chrétien. Et saint Thomas commence tout de suite de cette manière. La parole humaine est conventionnelle. Elle est le fruit de mon intelligence. Dieu, puisque sa parole est le fruit de sa sagesse, et que la création est le fruit de sa parole, Dieu peut se servir de la parole de l'homme, et Dieu peut se servir des réalités créées. Il y aura donc une double signification tout de suite de la parole divine. Quand il se sert de la parole humaine avec une signification directe et une signification indirecte quand il se sert des choses. Et je reviendrai là-dessus. Ici, on veut montrer aussi les divers sens de la parole de Dieu, ce que je vous ai déjà dit. J'avais fait dans le temps. Je lui prêtais à quelqu'un et puis c'est pas revenu, et j'avais pas le double. C'est un petit travail extrêmement intéressant à faire. Que tout le monde peut faire ça facilement. Quand vous lisez toute la Bible, relevez comment la parole de Dieu se définit par elle-même. La parole de Dieu est un marteau, c'est dit dans Ézéchiel. La parole humaine n'est pas un marteau. Ça veut dire qu'elle est efficace. Elle réalise ce qu'elle signifie. La réalisation très simple du marteau, quand vous donnez un coup de marteau sur la tête de quelqu'un, il le reçoit mieux que quand vous lui dites une parole gracieuse, aimable. La parole de Dieu est la communication des secrets. Très nettement. Jésus le dit. Jésus donne une parabole, la parabole du semeur, parce que c'est peut-être là où c'est le plus net. Hein. Faut tout le temps revenir à ça. Dans saint Luc et dans saint Marc, faites la comparaison du reste des deux. Prenez dans saint Luc, hein. Chapitre 8, verset 5. Le semeur est sorti pour semer. Pour semer sa semence. Et comme il semait une partie, et ainsi de suite, hein, vous connaissez ça par cœur, les disciples lui demandaient ce que pouvait bien signifier cette Jésus prend les trois, Pierre, Jacques et Jean, qui tous sont premiers dans l'ordre du gouvernement, Pierre, premier dans l'ordre de l'amour, Jean, premier dans l'ordre du témoignage, Jacques. Les trois premiers, les trois colonnes de l'Église. Eh bien, vis-à-vis de ces trois, Jésus les prend à l'écart. Il leur donne des explications qu'il ne donne pas aux autres. Donc, il y a tout. C'est normal, puisque c'est une communication. Et que je parle tout le temps en tenant compte de l'auditoire. Je ne fais pas le même discours quand j'ai un auditoire de savants. Quand j'ai un auditoire de poètes. Quand j'ai un auditoire de braves gens. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas des braves, mais de braves gens de la rue qui font la route. C'est pas la même chose. On n'emploie pas le même langage. Bon Dieu, je dis, on s'adapte. Les niveaux d'intelligibilité. Saint Thomas nous dit trois niveaux pour la prédication. Le niveau de la catéchèse. Faire passer des païens à la foi. Faire passer ceux qui ne croient pas à la foi. Le niveau du curé pour son peuple qui enseigne les commandements de Dieu. Et le niveau du prédicateur qui parle aux âmes consacrées qui ont soif de contemplation. Trois niveaux. Jésus lui-même nous montre qu'il parle en parabole avec un symbolisme que comprenne celui qui veut comprendre, que ne comprenne pas celui qui ne veut pas comprendre. C'est par miséricorde que Jésus fait ça. Parce que les pharisiens n'étaient pas prêts à recevoir l'enseignement du Christ. Ils ne pouvaient pas surcharger leur conscience, Jésus parle en parabole, comme ça ils ont une excuse. Tu parles en parabole. Et vis-à-vis des disciples, il explique la parabole. Et il donne un sens nouveau, qui est plus le sens de la parabole. On passe de la semence que tout le monde connaît par expérience, quand on est un rural, et la parole de Dieu. Dans Saint Jean, il y a un moment, vous savez, où les disciples disent « Ah, enfin maintenant !» Tu ne parles plus en parabole, tu parles directement. C'est tout proche de la fin. Si l'Esprit Saint nous est donné pour nous donner le sens intérieur de la parole du Christ, c'est pour que justement on passe du sens symbolique à un sens beaucoup plus profond, directement du mystère. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de comprendre cela. Donc, il y a beaucoup de demeures dans la parole de Dieu. Jésus parle en parabole sous une forme symbolique, mythique. Jésus parle dans un langage direct. La parole de Dieu est comme une semence. C'est-à-dire qu'elle est source de vie. Et que c'est elle qui se développe. Et c'est pas nous qui la développons. Nous nous apportons l'aspect matériel, mais la parole de Dieu est une semence. Elle se développe dans son sens propre. Alors, Jésus donne ses comparaisons. Il les précise. Il peut nous montrer le sens ultime et mystique. La parole de Dieu est faite pour qu'on aime. L'expression parole de Dieu est analogique. L'analogie porte-t-elle sur la source de la parole ou sur la signification de la parole? Évidemment sur la signification. Puisque la la source est toujours Dieu. Alors je peux dire que la signification dépend de l'intention. Et donc l'analogie qui existe du côté de la signification, je la retrouve du côté de l'intention. Autrement dit, quand Dieu me parle, il a où l'intention première de m'enseigner la vérité, où il a l'intention de me réveiller. Il me corrige. Ça, il réveille fameusement les pharisiens, parce qu'il y a une couche difficile à enlever. Alors là, il est sévère. De temps en temps, homme de peu de foi, correction de Jésus. Il ne parle pas de la même façon. L'intention n'est pas la même, ou d'enseigner ou de corriger. C'est pas la même chose de corriger quelqu'un fraternellement ou magistralement et de lui communiquer la vérité. Et puis, il y a encore une intention. C'est lorsque Jésus communique de la manière ultime ce qu'il porte en lui. Et on voit bien que Jésus s'arrête à un moment. Vous n'êtes pas capable de porter plus. Donc il communique ses secrets, mais il laisse le soin à l'Esprit Saint d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière. C'est le propre de l'Esprit Saint. Jésus ne nous conduit pas à la vérité tout entière. Il la vit. Et ce sera la croix. Et c'est l'Esprit Saint qui nous sera donné par la croix. Et à la croix, pour que nous puissions découvrir cette vérité tout entière qui nous est donnée par le mystère de la croix. Donc, on peut dire qu'il y a une analogie des degrés différents de signification dans la parole de Dieu. Et des degrés différents dans la manière dont Jésus nous communique cette parole. Peut-on parler de parole de Dieu s'il n'y a pas la nature humaine? Vous comprenez bien que la parole de Dieu qui assume la parole humaine implique l'homme. C'est sûr. Est-ce que je peux parler de parole de Dieu pour les anges? Y a-t-il une locution angélique? Les théologiens se posent la question, et saint Thomas s'est posé la question. Les anges ont une locution au plan surnaturel, pas au plan naturel. Ils sont des solitaires, au plan surnaturel, au plan de la charité fraternelle. Et donc Dieu peut très bien les éclairer aussi, de cette manière-là. Mais comme je ne suis pas un ange, je ne sais pas très bien ce que c'est que cette locution angélique. Et vous non plus, du reste. Hein. Vous n'avez pas assisté. Vous voyez comme on assiste quelquefois à des oiseaux qui bavardent le matin. Quand on va à Jérusalem, au pater, il y a un arbre là où il n'y a que des oiseaux, des petits oiseaux qui abritent cet arbre. Et on entend, ça fait un bruit énorme, énorme dans le cloître. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a pas de signification. Ils louent Dieu comme ils le peuvent. C'est pas une parole. Donc la parole de Dieu est adressée à l'homme et aux croyants. Y a-t-il parole de Dieu que dans un lien avec la foi? Seul celui qui a la foi peut discerner la parole de Dieu. Le philosophe, j'ai des amis philosophes qui aiment la Bible et qui considèrent que la Bible c'est le plus grand livre du monde. Ce qui est vrai. C'est le livre le plus intelligent qui existe au monde. C'est sûr. Il lit la Bible en philosophe pour découvrir comment il y a dans la Bible une anthropologie. Comment on parle de la transcendance de Dieu? ils reconnaissent que c'est la tradition humaine la plus intelligente. Bien plus intelligente que celle de l'Inde. Puisqu'il y a des confusions grosses. Tandis que là, il n'y a pas de confusion. C'est pour ça qu'on ne peut pas éclairer la Bible par les traditions de l'Inde. La Bible s'éclaire par elle-même. Si je suis croyant. C'est dit d'une manière éclatante à la fin de l'Apocalypse. On ne peut rien retrancher, rien ajouter, parce que c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur d'Hermite. Et si je veux éclairer la Bible par d'autres traditions religieuses, attention, tu risques de faire de très grosses confusions imaginatives. Mais si je lis la Bible comme une tradition religieuse, je peux la comparer à d'autres traditions religieuses. Mais ce n'est pas le croyant, c'est le philosophe. C'est le philosophe des religions. Il faut être très net là-dessus. Le philosophe des religions peut très bien lire la Bible comme philosophe des religions. Ça se fait. Mais si je suis croyant, je n'ai pas le droit d'introduire dans la Bible des choses qui ne sont pas inspirées. Même pas le Coran. Je peux regarder en parallèle en tant que philosophe. Si je suis croyant, je n'ai pas le droit de lire la Bible n'importe comment. Je lis toute la première révélation, l'Ancien Testament, en vue du Christ. Et le Nouveau Testament éclaire l'Ancien. Et non pas l'inverse. Ce que nous faisons hélas constamment, parce que nous ne sommes pas assez croyants. Les pères de l'Église ne faisaient jamais ça, parce qu'ils avaient une sève de croyants qui était parfaite. Tandis que nous, nous sommes un peu laïcisés dans notre foi. Les chrétiens ont peur d'affirmer leur foi. Ils sont honteux de leur foi, de dire qu'ils sont croyants, alors que c'est un titre de noblesse. On est de race divine. Et par la foi, on a quelque chose qui nous apparente à Dieu. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Je crois qu'il faut redécouvrir aujourd'hui cette sève chrétienne, cette sève surnaturelle de la foi, qui nous donne une espèce de noblesse divine, et de considérer que la Bible a cette noblesse, et ne pas la polluer. Parce qu'on est le siècle de la pollution. Hein. Alors ça se contamine jusqu'à la parole de Dieu. Il ne faut pas polluer la parole de Dieu. Ça, c'est la foi qui me dit ça. C'est la béatitude de la foi qui exige de dire ça avec force. Donc, y a-t-il parole de Dieu que en lien avec la foi? Oui. Dans la vision béatifique, Dieu ne parle plus. Alors, dans la vision béatifique, j'y suis pas encore. Et vous non plus. Alors, je sais pas très bien comment ça se passe. Je suis pas sorti de la caverne. Petit séjour de 8 jours en vision béatifique. Et je suis retombé sur la terre. Pour vous dire comment ça se passe. Pas le cosmonaute divin, vous voyez. On a été... revenu. Je vais vous dire comment ça se passe. Hein? C'était entre les professeurs du Saulchoir dominicain. Il y avait le professeur de dogme et le professeur de morale. Le professeur de dogme, c'était le père Eris. Le professeur de morale, c'était le père de Mont. De temps en temps, il y avait des petites disputes entre eux. Ce qui est normal entre professeurs. De manière d'interpréter Saint Thomas. Alors, il s'était dit, le premier qui partira de l'autre côté viendra dire en songe à l'autre si ce qu'il enseigne est vrai. Est-ce qu'il est venu? Ah bonjour le père ici. Oui, il est venu. Il a pris l'air très grand. Il est venu. Père Rissi, c'était un Normand. Un Normand vaincu, comme il disait. Alors, et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que ça m'intéresse quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-vous, professeur de dogme, c'est à peu près comme ça. Mais moi, la morale que j'ai enseignée, c'est pas ça du tout.
Session de théologie, la parole de Dieu par le père Philippe à Rimont, le 1er novembre 1992, troisième cours.
Attendez, je réponds tout de suite aux questions. Peut-on distinguer l'objet formel de la foi et la parole de Dieu? distingués, oui. Pas séparés. Mais il faut arriver à faire une distinction entre séparés et distingués. Depuis ton Scott, on a beaucoup de peine à faire cette distinction. Parce que séparer, c'est très facile. On coupe une tarte en deux. On dit, allez, à droite, à gauche, on sépare. Distinguer, c'est pas du tout la même chose. C'est l'intelligence qui distingue. On distingue les parties organiques d'autres parties. On ne les sépare pas nécessairement. Mais distinguer, c'est une question d'intelligence. Séparer, c'est la réalité. Alors, l'objet formel de la foi, c'est la vérité première. Se révélant. La vérité première se révélant, c'est Dieu. La parole de Dieu n'est pas Dieu. Il ne faut quand même pas identifier Dieu et la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Je ne dis pas que la Bible contient Dieu. Alors là, voyons, touche une ce que j'avais voulu, et ce que on verra peut-être. L'Eucharistie est la parole de Dieu. Peut-être ça, si vous verrez le mieux. Alors, la parole de Dieu est liée à la foi, nous l'avons vu, à la foi de celui qui reçoit et à la foi de celui vers qui la parole de Dieu est adressée, et à la foi du prophète. Le prophète est un croyant. Isaïe est un croyant et il est prophète. Il croit en la parole de Dieu, à la parole de Dieu, que Dieu lui communique. C'est sûr qu'il a une situation privilégiée. Quand un croyant, quand on est prophète, on reçoit la parole de Dieu en croyant. On la reçoit, première loge. Et la communique aux autres. C'est la foi très particulière de celui qui reçoit la parole de Dieu en prophète. Prenez Isaïe, Ézéchiel, tous les grands prophètes. Jésus est différent parce qu'il est Dieu. Mais dans son humanité, il est l'instrument de Dieu. Et il est l'instrument comme prophète. Il reçoit directement du Père ce qu'il doit communiquer aux autres. Il est inspiré sous l'action de l'Esprit Saint. Et les serviteurs de Dieu sous l'action de l'Esprit Saint. Et il nous communique ce que l'Esprit Saint lui dit de nous communiquer. Donc, vous voyez, distinguer quand même l'objet formel de la foi et le mystère de la parole de Dieu. Vous les distinguez, mais vous ne les séparez pas. Place de l'écriture par rapport à la parole de Dieu. Ça, c'est un très gros problème. La parole de Dieu est-elle nécessairement liée à l'écriture pour se faire entendre? Différence entre la parole de Dieu et l'écriture. La parole de Dieu est vivante. Est-ce que vous dites que l'écriture est vivante? La parole de Dieu est vivante parce qu'elle est liée à sa source. Et inséparable de sa source. Et la source de la parole de Dieu, c'est la révélation. Elle est inséparable de sa source. Elle est vivante dans le prophète qui la reçoit se rappeler ce que Platon dit en tant que philosophe, qui est très intéressant. Le mythe du teut, c'est le mythe de l'invention d'écriture. Et Platon rappelle autre chose, et de s'adresser à quelqu'un qui est en face de nous, qui nous écoute.
Le passé.
passage le plus difficile à interpréter de tout l'Apocalypse. Il interprète bon. On dit que c'est le plus difficile, c'est très bien, vous pouvez l'interpréter. On souligne le plus difficile. Bon, alors, l'écriture ne répond pas. Il vous laisse à votre intelligence. C'est tout. Tandis que si j'avais Jean devant moi, je dirais qu'est-ce que vous avez saisi, vous? Vous qui étiez tout près de l'inspiration, qu'est-ce que vous avez saisi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors peut-être qu'il donnera une explication, pas nécessairement. Il dit, je crois, pas plus, je suis comme vous. Moi, compagnon de l'exil, comme vous. Compagnon pèlerin, comme vous, pas plus. Je comprends plus. Jean n'a pas compris tout l'Apocalypse. Il l'a reçu, fidèlement, et il l'a transmise. Il l'a transmise pour nous. Et nous sommes mieux placés que Jean, que lui. Nous sommes mieux placés. Puisque l'Église a déjà vécu. Et nous sommes plus proches du terme. Donc on est beaucoup mieux placés que lui. C'est normal qu'il y ait des choses que nous comprenions d'Apocalypse et que j'en ai pas compris. C'est tout à fait normal. Parce qu'on a du recul. Près de 2000 ans de recul. C'est quand même quelque chose. Hein. L'Apocalypse a été vécu pendant 2000 ans. Alors, je développais ça. À la fin du cours, ce jeune pasteur se précipite sur moi. Hein, vous avez parlé de la différence entre l'Église protestante et l'Église catholique. Je dis, qu'est-ce que vous dites, quoi? J'ai parlé de Platon. Platon ne voyait pas la différence entre l'Église protestante et... Mais vous avez dit exactement la différence entre l'Église catholique. L'Église catholique croit en la tradition. Il y a donc une réponse. L'Église protestante ne croit qu'en l'écrit. Alors, j'ai souri. J'ai dit, c'est très vrai. Quand je lis ce texte, je me dis, c'est intéressant. C'est même très intéressant. Vous confirmez mon intérêt. Parce que vous réagissez bien. Et c'est vrai. L'écriture qui n'est pas portée par la tradition, elle ne répond pas. L'écriture qui est portée par la tradition, c'est différent. Et la tradition, c'est quoi? C'est le dialogue vivant. C'est la parole de Dieu portée dans le cœur des saints. C'est ça la tradition. Portée dans le cœur de Marie. Portée dans le cœur de Pierre. Dans le cœur de Jean. C'est ça la tradition. C'est vivant la tradition. C'est une chose vivante. Tandis qu'au contraire, l'écriture, c'est une chose qui est, je ne dis pas, sclérosée. L'écriture humaine, sclérose, arrête. Mais pas l'écriture divine. Alors, vous comprenez bien qu'il y a quand même une différence entre la parole de Dieu qui est gardée dans la tradition et la parole de Dieu écrite. L'écriture détermine, il faut l'écriture. Voyez, pensez un tout petit peu. Si Jésus avait voulu, pour notre foi, que l'écriture soit plus importante que la tradition, qu'est-ce qu'il aurait fait? Parce qu'il était intelligent. Chaque soir, il aurait réuni dans un petit QG Pierre, Jacques, Jean. Qu'est-ce que nous avons fait durant cette journée? Pierre écrit. Non, il écrit mal, Pierre. Alors, Jacques écrit. Écris ce que nous avons fait. Puis Jésus aurait signé. Pierre aurait signé. Jacques aurait signé, Jean aurait signé. On aurait l'itinéraire de Jésus pendant les 3 ans de sa mission, écrite par lui-même. Son autorité, ça aurait été merveilleux. Ça aurait été étonnant. Il n'y aurait plus de travail pour les exégètes. C'est extraordinaire. Jésus n'a rien écrit. Pourquoi? Il y a une raison, c'est pas la paresse. C'est pas un manque d'intérêt. Pourquoi? Il a voulu faire comprendre que la parole divine devait être gardée dans le cœur des saints, dans le cœur de Marie, dans le cœur de Pierre, dans le cœur de Jean, dans le cœur de Jacques. L'Église a commencé par une tradition, emporter la parole de Dieu. La parole de Dieu est reçue dans la bonne terre. On dit pas que la parole de Dieu est faite pour être écrite dans un livre. Viens avec l'Apocalypse. Viens avec l'Apocalypse. On dit à Jean, écris. Puis tout d'un coup, on dit, ah, n'écris pas ça. Il y a un silence. Donc il y a des choses que Jean a compris et qu'il n'a pas écrites. Il a obéi. Je crois qu'on peut les comprendre. Puis ça, c'est souterrain. C'est une intelligence souterraine de ce qui est écrit, parce que toujours, on peut toujours essayer de saisir pourquoi il y a eu ce silence. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu a été d'abord gardée par la tradition. Puis à un moment donné, l'Esprit Saint a voulu que ce soit écrit. Et Jean n'avait pas envie du tout d'écrire. Je me souviens de cette parole du Père Finet en me disant, jamais je ne pourrai écrire un livre sur Marthe. Je la connais trop bien. Je suis trop proche d'elle. Et vous voyez, on voit ça dans Jean. Jean n'avait aucune envie d'écrire. Et Jean, quand il a été obligé d'écrire, parce qu'il était docile à l'Esprit Saint, mais montre, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Beaucoup d'autres choses. Et si on écrivait tout sur le Christ, le monde entier ne suffirait pas pour porter tout ce qu'on a à dire sur le Christ. Ce qui montre très bien que Jean est gêné d'écrire, parce que quand on écrit, on simplifie. Le rapport que fait un secrétaire d'un conseil, il écrit. Il ne dit pas mot à mot tout ce qui est. Il écrit ce qui lui semble essentiel. Dès qu'on écrit, on ramène nécessairement toute la parole vivante à quelque chose. Alors on sait que ce qui a été écrit est encore sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc ce qui est écrit est révélé. Mais ce qui est écrit n'est pas identique à la tradition. Et la source de la tradition, c'est la parole de Dieu. La parole et les gestes. Donc voyez, il faut bien saisir la différence entre la parole et l'écrit. L'écrit présuppose, comme la parole, la pensée. La parole exprime la pensée d'une façon vivante. L'écrit arrête et fige. Et donc, c'est encore ce qu'on a pensé. Mais il faut beaucoup plus d'interprétation. Interprétez une lettre que vous recevez de quelqu'un. Vous pouvez quelquefois tomber complètement d'à côté. Dans un dialogue, c'est plus vite fait, parce que si vous comprenez mal, vous dites, pardon, père, c'est pas ça que je vais vous le dire. Et puis on rectifie. Et on se remet pour se comprendre en harmonie avec celui qui parle. Tandis que quand on reçoit l'écrit est universel, beaucoup plus. Il est écrit pour tous. Donc il faut bien distinguer le point de vue de la parole et le point de vue de l'écriture. Mais il faut comprendre que l'écriture qui nous est donnée dans la Bible est une écriture qui est garantie être vraie. Puisque la parole de Dieu a été transmise à certains, elle est gardée par la tradition. Et ensuite, elle est écrite par d'autres, les évangélistes, qui ont transmis cette parole. Et alors, ils ont reçu un charisme particulier pour pouvoir écrire correctement et écrire la vérité. Donc, la parole de Dieu est-elle nécessairement liée à l'écriture? Non. Elle est liée à la tradition. Les deux sources de la révélation, c'est l'écriture et la tradition. Et ça, c'est dit depuis très très longtemps. Et ça a été confirmé par le Concile de Trente, ça a été confirmé encore par le dernier Concile. Mais le lien entre la tradition et la parole de Dieu, entre la tradition et l'écriture, c'est pas précisé. On dit deux sources. En réalité, une source, la parole de Dieu. Dieu et la tradition. Et certains éléments les plus importants sont écrits. Mais c'est enveloppé tout le temps de la tradition. La parole de Dieu et la tradition, la tradition garde la parole de Dieu de façon vivante. L'écriture la fixe. Alors au fond, on a toujours besoin de quelque chose qui soit vivant et quelque chose qui soit fixe. Donc s'il y a tradition et écriture, c'est parce que l'homme a besoin des deux. Et vous voyez, quand il y a un tribunal, l'écrit a toujours une valeur très particulière. Mais le juge aime écouter quelqu'un qui a été témoin, qui ne donne pas d'écrit, mais qui a été témoin. À la fois, ça a plus de valeur et moins de valeur. C'est extrêmement curieux. Le point de vue de la valeur de la tradition est plus affectif. L'écrit est plus juridique, plus net, plus précis. Mais la tradition et la parole ont un côté plus affectif. Le Verbe éclaire tout homme. Est-ce à dire qu'un homme n'ayant ni l'écriture, ni la tradition, peut recevoir la parole de Dieu? On ne dit pas la parole de Dieu, on dit le Verbe de Dieu. On ne dit pas la parole de Dieu éclaire tout homme. Je crois que cette parole est très importante dans le prologue de Saint Jean. Le Verbe de Dieu éclaire tout homme. Ça nous montre que dans l'intelligence humaine, il y a quelque chose de sacré. Elle est capable, l'intelligence humaine est capable de découvrir l'existence de Dieu, de remonter jusqu'à Dieu. Ce que les théologiens du Moyen-Âge appelaient les préambula fidei, les préambules de la foi. L'intelligence humaine est capable par elle-même de découvrir ça. Il y a donc un contact mystérieux entre l'intelligence et la source de l'intelligence, le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu éclaire tout homme. Ceci est très intéressant parce que ça nous montre que toutes les traditions religieuses ont un lien avec l'intelligence humaine en tant qu'elle cherche à connaître Dieu. On remonte à la source. Et vous savez bien que c'est comme ça que Peggy définit le philosophe et la sagesse. Il dit cette chose très belle. Descend le fleuve, beaucoup d'hommes descendent le fleuve, et les cadavres descendent plus vite. Mais quand quelqu'un vous dit, tout le monde fait ça, c'est pour ça que je le fais, vous descendez le fleuve, madame, ou monsieur, vous descendez le fleuve, et les cadavres vont plus vite que vous. C'est-à-dire qu'en descendant le fleuve, tôt ou tard, vous devenez un cadavre. Parce que vous ne pensez plus, vous faites comme tous les autres, tout le monde fait ça. Le philosophe remonte à la source. Il y a des gens qui suivent les modes, par exemple. Tout le monde prend un chapeau comme ça. C'est la mode. Très bien. C'est la mode. La mode, la tradition, c'est pas la mode. Vous voyez, la vie religieuse, c'est pas une mode. C'est une tradition. C'est très différent. Et quand je ne dis plus pas d'autres. Non. Bon, alors. Suivre la mode. Suivre la mode. Tout le monde le fait, donc on le fait. Alors les cadavres suivent la mode. Selon pays. Tandis que le philosophe remonte à la source. Et c'est difficile de remonter à la source. C'est pénible de remonter à la source. Puisque quelquefois on est seul. Quand vous voulez chercher la vérité, pensez que vous serez seul. Un jour ou l'autre, seul avec Dieu, avec le Verbe de Dieu. Donc c'est bon signe. Quand vous avez trop de succès, attention au cadavre. Parce que vous pensez comme tout le monde. Et vous criez tout ce que tout le monde dit. Alors plus il y a de fous, mieux ça vaut. Tandis que remonter le fleuve, c'est difficile, c'est pénible, ça exige un effort. Il faut accepter d'être seul. Parce qu'on cherche la vérité. C'est très beau cette parole de Peggy. C'est la meilleure définition du philosophe. Parce que ça montre bien. On remonte à la source et dire on veut trouver la vérité. On veut découvrir la vérité. Eh bien, vous voyez, le Verbe de Dieu est à la source de mon intelligence. Puisque mon âme spirituelle est créée directement par Dieu. Donc par le Verbe de Dieu. Et donc, je peux dire que mon intelligence, je ne dis pas ma raison, par la logique. Mais la vraie philosophie réaliste qui cherche la vérité et connaît ce que c'est que l'homme, on est éclairé par Dieu. Et je ne dis pas que c'est l'inspiration, je dis tout simplement on est éclairé par Dieu. Chaque fois que mon intelligence veut remonter à la source et qu'elle cherche la vérité, on peut être sûr qu'elle a le secours de Dieu, du Verbe de Dieu. On l'a dit, et des papes l'ont dit, que pour chacun de ces articles, saint Thomas était éclairé par Dieu. C'est pas l'inspiration, mais il est éclairé par Dieu. Si on cherche la vérité, on est éclairé par Dieu. Donc le Verbe éclaire tout homme. Est-ce à dire qu'un homme n'ayant ni l'Écriture, ni la tradition, peut recevoir la parole de Dieu? Il ne reçoit pas la parole de Dieu. Il reçoit ce désir de chercher la vérité. Et c'est pour ça qu'à l'origine de toutes les traditions religieuses, il y a une petite étincelle qui vient de Dieu. Y a-t-il une différence pour le croyant entre la parole de Dieu lue chez soi et celle entendue à la messe? Entendue à la messe, elle est lue avec l'autorité de l'Église. Parole vivante. Lue chez soi, vous la lisez. Vous ne l'entendez pas. Alors vous pouvez la lire tout haut. Ou vous pouvez avoir quelqu'un qui vous la lit. C'est déjà mieux. D'accord, la parole de Dieu demande d'être entendue. Alors, si elle est entendue par celui qui officie, qui a autorité de la lire, le diacre, qui a autorité de dire la parole de Dieu, ou le prêtre, qui a autorité de dire en public la parole de Dieu, il y a une grâce de Dieu, ça c'est sûr. C'est donc pas la même chose. Mais la parole est la même, mais c'est celui qui l'entend et qui la reçoit qui la reçoit mieux. Il peut se faire qu'il la reçoive moins bien. Hein, voyez très bien. Quelqu'un qui dit que quand je suis seul, au moins je prie. Dès qu'il y a à côté de moi quelqu'un plein de dévotion, et ces dévotions, ça m'agace. Il récite son chapelet pendant qu'on lit l'évangile. Ça m'agace. Vous savez qui écoute la parole de Dieu quand même. Là, ça ne me cherche pas à être très contente. Qu'on soit comme ça dans ses jupons maternels pendant qu'on lit la parole de Dieu. Ça peut agacer. Ça a agacé même la petite Thérèse d'entendre le rosaire qui est à côté. Ça l'a agacé. Donc elle était pourtant très vertueuse. Alors j'ai dit, moi j'aime mieux lire la parole de Dieu seule. Dans mon petit oratoire. C'est possible. Quelqu'un me dirait ça. Je dirais, faites les deux. Faut pas parce que vous lisez la parole de Dieu chez vous de ne plus l'entendre. Faites un effort. Parce qu'il y a une grâce particulière. Alors je continue parce qu'il faut arriver à la fin quand même. Parménide. Je sais pas si je veux voir ça. Est-il respecté par la parole de Dieu? Le triangle de Parménide, c'est la réalité, l'être, penser, dire. Vous comprenez que le triangle de Parménide, c'est pour le philosophe. Mais il existe tout le temps. L'être, là, c'est Dieu qui illumine. Il y a celui qui pense et qui reçoit, et celui qui dit. Mais l'illumination éclaire la pensée et éclaire le dire. Donc il y a une unité qui se fait grâce à l'illumination divine, grâce à l'inspiration. La parole de Dieu nécessite-t-elle une communauté pour être reçue, transmise? La parole est faite pour être reçue. La parole de Dieu est faite pour la communauté ecclésiale, la communauté des croyants. C'est sûr, pour être transmise. Mais comprenons bien qu'il n'y aurait plus qu'un seul croyant. La parole de Dieu garde tout son poids d'amour, toute sa lumière. Ce n'est pas la communauté qui éclaircit la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui illumine la communauté. Bien sûr, c'est la parole de Dieu qui actue ma foi. Ce n'est pas ma foi qui actue la parole de Dieu. Alors, maintenant, quelques remarques sur la parole du Christ. A-t-elle toujours un mode divin, ou parfois humain et parfois divin? Quand Jésus parle à Marie, quand Jésus parlait à Joseph, comment tiens-tu le ciseau? Comment rabottes-tu? Jésus posait des questions à Joseph, et Joseph apprenait à l'enfant Jésus de raboter, de travailler. Alors, quand Jésus pose la question à Joseph, est-ce que c'est une parole divine? Je vous laisserai répondre, ce serait très intéressant de voir. Ceux qui disent, je vais voir un petit, on va faire un petit test. Ceux qui disent que quand Jésus dit à Joseph, comment rabottes-tu? Évidemment, c'est pas dans l'évangile. Il y a un grand silence dans toute la vie cachée. Ou quand Jésus demandait à Marie comment elle faisait la cuisine. Est-ce que c'est une parole divine ou une parole humaine? Alors, ceux qui disent que c'est une parole divine, lèvent la main. Ceux qui disent que c'est une parole humaine, lèvent la main. Il y en a beaucoup qui n'osent pas. Majorité ceux qui n'osent pas. Dans le fond de votre cœur, quand même, pourquoi il y a le grand silence de la vie cachée? Pourquoi? Quand Jésus est tout petit enfant remis à Marie, je ne crois pas que Jésus a parlé tout de suite. Il aurait pu. D'abord, il a pris notre condition humaine en toute chose. C'est dit du reste dans une des préfaces. C'est dit dans le canon aussi. Il a pris notre condition humaine entièrement. S'il a pris notre condition humaine entièrement, donc il a été comme un enfant. À partir de quel moment Jésus a-t-il commencé à parler comme l'envoyé du Père? Est-ce que ce n'est pas quand il avait 12 ans? Et qu'il s'est mis à interroger les vieux théologiens du temps, ces docteurs de la foi qui ne doivent pas être commodes, et les jeunes docteurs de la loi à Jérusalem. montrant qu'il faisait des confusions et les obligeant d'aller plus loin. Quand Jésus répond à Nicodème, quand on est vieux, peut-on rentrer dans le ventre maternel? Jésus répond à Nicodème, parole divine, plus une parole humaine. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus montre que Nicodème fait une grosse confusion. Et je crois que Jésus a 12 ans, parce que Nicodème faisait peut-être partie de ces docteurs de la loi qui avaient entendu Jésus 12 ans. C'est très très possible. Ça ne m'étonnerait pas. C'est une des questions qu'on doit retenir dans son cœur. Quand on sera au ciel, on aura comme cette question à demander. Hé, Nicodème, est-ce que tu faisais partie de ceux qui étaient à Jérusalem quand Jésus avait 12 ans? Raconte-moi un tout petit peu. Il y aura beaucoup de choses, ça va être très intéressant à entendre. Merveilleuse. On verra tout ça au clair. On verra toute la vie cachée de Jésus. Toute la vie cachée de Jésus. Et pourquoi le silence? Alors si je vous donne une raison maintenant, je vais me faire taper sur les doigts si c'est pas ça quand vous êtes de l'autre côté. Vous avez dit ça, c'est pas ça du tout. Et vous croyez que c'était ça, que c'était une trouvaille. Pas du tout, complètement d'un côté. On verra qu'il y a des quantités de choses qu'on a dites qui étaient complètement d'un côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer de les comprendre. Je crois que la vie cachée est une vie cachée où Jésus est comme un enfant pour Marie. Un petit enfant merveilleux, intelligent. Mais c'est une parole d'enfant. Vous voyez, c'est les légendes, c'est les apocryphes qui font dire à Jésus des paroles qui ne sont plus des paroles d'enfant, et qui sont des paroles de Dieu enfant. Les enfants, quelquefois, disent des paroles très étonnantes. Une parole comme ça d'une mère qui m'a été racontée, je cite souvent parce qu'elle est tellement extraordinaire, ce gosse de 4 ans. À 4 ans, les enfants sont très proches de Dieu. Ils ont besoin que leur apprendre leur raison. Ils prient admirablement. Pendant la guerre, j'étais mobilisé, il n'y avait plus beaucoup de prêtres, et j'étais pas encore sous les drapeaux. J'enseignais à des petits gosses, des petites filles de 4 ans, 5 ans. Alors j'avais fait une action catholique qui n'a pas continué, celle-là. Elle s'est arrêtée très vite. J'ai dit, vous êtes une petite division des parachutistes de la Sainte Vierge. Puis j'avais expliqué la spiritualité des parachutistes. Et alors ces gosses mordaient ça, extraordinaire. Non, puis après il y avait un quart d'heure de silence, de prière et d'adoration. C'est merveilleux. Parce que on a. Alors ce gosse de 4 ans, authentique, un jour, sa mère le voit tout pense qu'il pense. Et sa mère lui sert de sa soupe. Elle dit, gars, tu penses à quoi? Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Sa mère lui répond, goûte, mange ta soupe quand elle est chaude. Puis on verra plus tard l'éternité. Mange ta soupe, parce que ton mal sera froide quand tu trouveras. Et puis sa mère, voyant qu'il reste, s'en va. Puis elle revient au bout de 5 minutes. 10 minutes peut-être, je sais pas. Et puis il mange sa soupe. Alors sa mère lui dit, alors tu as trouvé? Et le gosse prend son rond, dit, l'éternité, maman, c'est ça. Vous voyez, la figure de l'éternité, le commencement et la fin qui se tiennent, le rond, le cercle. Pour un gosse de 4 ans, c'est pas mal. Hein? Alors, est-ce qu'il y a-t-il une inspiration du Saint-Esprit? Non. Je crois qu'un gosse peut très bien avoir cette intuition d'éternité. Il a été baptisé, il a la foi. Il peut avoir cette espèce d'intuition. Les gosses ont des intuitions étonnantes. Des petits génies. Ça n'a pas duré son génie, vous n'avez rien. Enfin, quand je le voyais, il avait 35 ans. Il était normal, bien. Mais pas un super génie. Jésus pendant sa vie cachée jusqu'à 12 ans. Il a commencé à 12 ans. Et les prémices de sa parole divine, c'est pour les docteurs de la loi. Je crois qu'on peut dire ça. Et ça, c'est très beau. Il a réservé son premier enseignement divin pour les docteurs de la loi, pour les théologiens. Et pendant ce temps-là, Marie et Joseph souffraient. C'était les prémices du mystère de la compassion. Et à partir de là, je crois que Jésus a continué d'enseigner sa mère. Jésus, de 12 ans à 30 ans, enseignait sa mère. Et alors là, c'était vraiment l'envoyé du Père pour Marie. Mais je ne crois pas que Jésus, enfant, ait dit des paroles extraordinaires. Non, au contraire, il restait l'enfant. C'est tellement plus beau. C'est ça la vie cachée de Dieu. Tu es au milieu de nous et puis ça tait, garde le silence. C'est la place de l'enfant. Il n'a pas enseigné comme enfant. Il a commencé à enseigner à 12 ans. Le jeune juif avait le droit et devait même descendre à Jérusalem pour les grandes fêtes et surtout pour la Pâque. Alors, vous voyez, je crois qu'il y a un discernement qui n'est pas commode. Ce que je peux dire, c'est que toutes les paroles de Jésus qui sont dans l'Écriture sont des paroles divines. Ce que je peux dire, c'est que Jésus, à 12 ans, sûrement a interrogé les théologiens en disant des choses que les théologiens de ce temps écoutaient avec admiration. Parce que Jésus savait que quand il aurait 30 ans, les pharisiens et les docteurs de la loi auraient beaucoup de peine de l'écouter. Alors il a devancé. On écoute plus facilement un enfant qu'un docteur de la loi. C'est sûr. Un enfant qui dit des choses merveilleuses, c'est admirable. Et Jésus à 12 ans a émerveillé ces docteurs de la loi. Donc vous voyez, il y a là un discernement qui est... que nous ne pouvons pas faire. Nous pouvons simplement, selon l'Écriture, indiquer cela. Jésus aurait pu, oui, dites.
Du côté de la signification des paroles, vous dites qu'il y a le fait des paroles divines à partir de 12 ans, mais du côté de celui qui émerge, les paroles viennent de la personne, or le Christ, et non pas de la nature, on va pas dire que la nature...
Ah, mais est-ce que Jésus, enfant, voulait enseigner sa mère? Ou est-ce qu'il voulait être enseigné par elle? Répondez-moi à ça.
Oui, du côté de la signification, mais du côté de
puisque la parole est toujours donnée à quelqu'un. Est-ce que Jésus, enfant, voulait enseigner sa mère? Ou est-ce qu'il voulait au contraire rester l'enfant donné à sa mère et recevoir toute sa mère? Moi, c'est ce que je crois. Oui, parce que quelquefois, au point de vue affectif, on donne plus par le silence que par la parole. Et le petit enfant Jésus, livré à sa mère jusqu'à 12 ans, par sa présence, donnait plus à Marie. C'est le cœur de Marie, c'est le cœur de la mère qui l'a éduqué en premier lieu. Vous voyez, il aurait pu, mais est-ce que s'il avait fait, s'il avait dit des paroles divines, éternelles, ça aurait été gardé. Et Marie les aurait gardées. Comme cette bonne mère a gardé que son enfant à 4 ans avait posé la question « Qu'est-ce que c'est que l'éternité ?» Marie aurait pu dire ça à Jean. Et Jean aurait pu nous donner un petit évangile de la vie cachée, réservé à tous les enfants de la Vierge Marie. Un petit livre rouge particulier. Non, rien du tout. Je crois qu'il y a le silence de Dieu dans le mystère de l'incarnation. Et le silence de Dieu dans l'incarnation, c'est la présence. Et une présence du tout petit enfant auprès de sa mère. Pour éduquer sa mère. Un enfant éduque sa mère par le silence. Un enfant n'éduque pas sa mère par ses colères. Les colères d'un enfant n'éduquent pas du tout une mère. Tandis que les silences de l'enfant qui obéit dans 6 ans, je crois. Sa mère était très très agitée, elle devait prendre le train, partir. Alors les valises, on voit les dernières minutes. Puis le gosse était sur le canapé. On voit un gosse 5 ans sur le canapé. Elle a dit, mais tu pourrais pas m'aider ?